Le paddock RMC, Kylian Verhove.
Salut à tous, la F1 est repartie dans son rythme totalement infernal, une semaine seulement après Monaco, un Grand Prix qui comme souvent nous a offert son lot de chaos. On l'a vu, et ben on reprend déjà la route direction Barcelone. Il va falloir s'y habituer. Pour la première fois, la course ne s'appelle plus officiellement le Grand Prix d'Espagne. Cette appellation a été récupérée par Madrid. Mais bon, ça reste le circuit de Barcelone-Catalogne, une piste que les pilotes connaissent quasiment les yeux fermés. On va évidemment revenir sur toutes ces particularités dans quelques instants. Mais avant ça, il y a un homme qui va attirer toute notre attention ce week-end, un pilote attendu au tournant. Depuis le début de la saison, il souffre énormément de la comparaison avec son coéquipier. Rien ne semble vraiment tourner dans son sens et pourtant, il va devoir réagir et vite parce que s'il veut éviter que les questions autour de son avenir prennent encore plus de place, il doit commencer à redresser la barre. On va beaucoup parler de George Russell aujourd'hui, oui, de sa situation, de ses difficultés, mais aussi de sa capacité ou non à rebondir. Et puis pour analyser tout ça, je suis plutôt très bien entouré d'habitude, il est notre team principal à nous, mais il a décidé de remettre un peu les mains dans le cambouis aujourd'hui. Salut Nicolas Paolorsi.
Salut les copains. Ah mais on sait tout faire nous, la mécanique, piloter, c'est ça le paddock RMC mon gars, ouais. On est partout.
Nous on irait le remporter haut la main ce championnat quand même. Avec l'équipe qu'on a, ça serait facile.
Avec peu de moyens,
mais beaucoup de volonté. Ilyes Barry, fidèle au poste, est avec nous aussi. Ça va, Ilyes ?
Exactement, ça va et vous ? De l'expérience, de la jeunesse, il y a de tout.
Tu serais quoi, toi, dans notre équipe ?
Ça va, le rookie.
Un rookie ?
Chilling Blad.
En parlant de rookie, justement, on va en parler juste après. Il y a pas mal de rookies qui vont faire leur début en FP1 sur ce Grand Prix de Barcelone. Mais avant de commencer, petit rappel, si vous voulez suivre toute l'actualité de la Formule 1, les infos, les résultats, les déclarations qui font parler, pensez à vous abonner au compte Instagram du paddock RMC et bien sûr abonnez-vous aussi à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Surtout qu'on continue de développer le format avec Nico, notamment les warm-up chaque jeudi, les débriefs le lundi, mais aussi les coups de cœur et les coups de gueule de notre Jean-Luc Roy à nous, sans oublier les replays de ses commentaires sur RMC. Jean-Luc qu'on embrasse au passage. Allez, si vous aimez la Formule 1, vous êtes au bon endroit, installez-vous confortablement et ensemble on vous présente le Grand Prix de Barcelone. Allez, je vous donne le programme avant de commencer. On est sur un copier-coller du week-end dernier d'ailleurs. Les deux premières séances d'essais libres, ce sera ce vendredi 13h30 pour la première, 17h pour la deuxième. Samedi, la troisième séance d'essais libres sera à 12h30, les qualifs à 16h et puis enfin la course. Ce sera dimanche à 15h, à suivre évidemment sur RMC. J'en ai parlé rapidement, une petite précision sur le déroulé de ce week-end. Comme le circuit de Barcelone est connu par cœur par les équipes et les pilotes, c'est l'occasion idéale pour plusieurs d'entre elles de faire rouler des jeunes pilotes lors des essais libres 1. Pour vous donner quelques noms, Fred Vesti remplace Kimi Antonelli chez Mercedes, Luke Browning remplace Alex Albon chez Williams, Colton Herta remplace Sergio Perez chez Cadillac, Leonardo Fornaroli remplace Lando Norris chez McLaren, Isaac Hadjar ne participera pas non plus aux essais 1, c'est Ayumu Iwasa le japonais qui prendra part à ces essais, et puis Paul Aron remplace Nico Hülkenberg chez Audi. Messieurs, avant de se plonger dans ce Grand Prix, s'il vous plaît, on a appris hier qu'il y allait y avoir des changements au niveau des règles moteurs et ça va s'étaler sur deux saisons. Le but, redonner de plus en plus d'importance aux moteurs thermiques jusqu'à atteindre une répartition en 60-40 en 2028. J'ai envie de vous entendre là-dessus. La FIA rétropédale, c'est vrai, mais est-ce qu'on est sur un véritable changement ou est-ce qu'on est dans un coup d'épée dans l'eau, Nico ?
Bon, je pense que la décision, elle est surtout politique. Elle est surtout politique. Je suis pas sûr que inverser à la marge des petits pourcentages pour redonner de l'importance au moteur thermique, ça a une vraie impact, une vraie incidence sur les performances des voitures. Par contre, il y a plusieurs messages qui sont envoyés aux écuries. Déjà, le premier, c'est on vous a entendu. En effet, il y a des choses qui ne vont pas dans cette réglementation. C'est un petit désaveu aussi pour ce nouveau règlement. Clairement, ça prouve que la FIA s'est un petit peu plantée. Ça prouve aussi qu'on écoute les téléspectateurs et que peut-être que au niveau des audiences, au niveau des fans de Formule 1 qui ont émis des doutes sur cette nouvelle réglementation, ils ont senti que ça ne matchait pas et qu'il fallait changer les choses. Maintenant, je pense que c'est très politique. C'est faire un pas vers les écuries, faire un pas vers les pilotes, faire un pas aussi vers les téléspectateurs en disant OK, on bouleverse quelques trucs, mais en soi, on va pas non plus tout casser parce que c'est tellement cher de développer des moteurs pour ces constructeurs-là qui sont impliqués sur 3, 4, 5 ans avec cette nouvelle réglementation qu'ils ne peuvent pas tout casser. Donc voilà, on essaye un peu de ménager la chèvre et le chou avec cette décision. Mais si tu me demandes si ça va tout révolutionner la saison prochaine en 2027 ou en 2028, cette annonce, très clairement, je vais te dire non.
Ilias, est-ce qu'on peut se satisfaire quand même de...
On peut se satisfaire parce que on va dire que la FIA entend, ou nous entend, parce que comme l'a dit Nico, je pense que c'est politique.
Oui, parce qu'il y a les pilotes, mais il y a aussi les fans. Qui.
Exactement. Personne n'aimait cette réglementation. Vraiment, mais personne n'aimait cette réglementation. Et je pense que la FIA se serait embêtée à s'entêter sur cette voie-là. Donc, ouais, ils nous ont écoutés. Maintenant, ça reste de la marche parce qu'entre 2026 et 2028, on passe de 53-47 à 60%, 40%. Tu gagnes 7%, ça ne va pas tout basculer. Mais c'est sur la bonne voie.
Oui, on est loin des 75-25 ou 90-10.
Exactement.
Non, mais après, le message que ça peut envoyer, les gars, c'est peut-être que, une fois que cette réglementation-là sera terminée, on va peut-être repasser sur un 100% thermique avec tu vois, des moteurs hybrides, mais en tout cas avec une part thermique portante. Le retour des moteurs, des V10, des V12, tout ce qu'on entend un petit peu là, qui fuite, voilà, peut-être qu'on tend vers ça. Mais oui, ça, enfin, je veux dire, quand on regardera la saison prochaine de la Formule 1, on va pas se dire waouh, ils ont tout changé, les mecs. C'est vraiment, ils peuvent pas en fait, ils peuvent pas. Ça a coûté tellement d'argent pour tous les constructeurs. Il y a des constructeurs qui sont impliqués en Formule 1 pour vivre aussi cette réglementation là et qui ont mis de l'argent, qui ont investi des sommes colossales pour cette réglementation là. Ils peuvent pas rétro-pédaler totalement comme ça.
Et puis il y a autre chose qui va aller dans ton sens, Nico, et dans le sens des critiques de cette réglementation. C'est un autre point de règlement qui est paru en ce début de semaine. La FIA a transmis aux constructeurs les conclusions de sa première analyse du mécanisme ADUO, Additional Development and Upgrade Opportunities. L'objectif de ce système... Merci Nicolas. L'objectif de ce système, c'est permettre aux constructeurs les moins performants en fait, de bénéficier d'opportunités supplémentaires pour se développer et combler leur retard. Mais si je vous en parle, c'est que ça a un petit peu secoué le paddock parce que c'est Lewis Hamilton qui l'a révélé à la fin du Grand Prix de Monaco, un petit peu comme ça, au travers d'une interview, et ça n'a pas été dévoilé officiellement. Mais le verdict, en tout cas, est complètement lunaire, ou du moins paradoxal, parce qu'on pouvait s'attendre à ce que le moteur qui soit désigné comme le meilleur moteur du circuit soit celui de Mercedes qui domine le championnat cette saison. Il n'en est rien. C'est Red Bull qui a été désigné comme le meilleur moteur cette saison, alors que Mercedes aura, lui, droit à une évolution pour essayer de combler, entre guillemets, le retard qu'ils peuvent avoir sur Red Bull. Derrière, Ferrari, Audi et Honda auront, eux, droit à deux évolutions. On est, je l'ai dit, sur un verdict qui, sur le papier, a très peu de sens. Est-ce que on est là sur la porte ouverte peut-être à une domination sans égale de Mercedes? On sait aussi que la FIA va analyser la demande de Red Bull de revoir ce jugement-là. Nicolas, ton avis sur cette sortie-là de Lewis Hamilton?
Ben, je comprends pas. Je comprends pas comment, quand tu vois les performances, après analyse des moteurs, on peut te dire que le meilleur moteur thermique, là, c'est Ford qui l'a fait et c'est donc Red Bull qui bénéficie de ça. Je comprends pas. Alors après, on n'a pas les détails du rapport, de l'étude. Tu le disais, en effet, ce système-là, il est fait pour essayer de compenser les motoristes qui ont du retard. Si tu es entre 2 et 4%, ils analysent en pourcentage le manque de performance. Donc si tu es entre 2 et 4%, tu as le droit à une évolution en 2026 et une en 2027. Si tu as plus de 4% derrière, c'est deux. Ça voudrait dire que Mercedes, donc, qui écrase la saison, a le droit à des évolutions. Ouais. C'est assez difficile à lire, à comprendre. Alors il y a plein de choses que nous, on ne maîtrise pas. Probablement qu'il faudrait aussi qu'on ait des études et qu'on ait des ingénieurs qui viennent nous décortiquer tout ça. Mais moi, j'ai vraiment du mal à me dire que Ford a pondu le meilleur moteur. Enfin, je comprends pas.
Ilias, est-ce qu'on peut s'attendre à, je sais pas, une fronde, un soulèvement au vu de ce politique, du moins, ou diplomatique dans le paddock au vu de cette analyse-là et ces sorties-là?
Bah, c'est clair. C'est sûr que Nicolas dit, on comprend pas, parce que au vu du début de saison, on se demande comment c'est possible que Red Bull ait le meilleur moteur vu les performances de Mercedes. Il y a des chiffres qu'on n'a pas, donc on ne sait pas comment ça c'est possible en fait au final. Peut-être que la Red Bull a un meilleur moteur, mais tout simplement très mal né, ce qui expliquerait aussi quelques performances. Mais c'est possible que voilà, les Ferrari, les McLaren, peut-être pas McLaren quand même, parce que moteur Mercedes, eux, ils sont contents. Mais les écuries derrière se plaignent un peu, parce que Mercedes écrase la concu, et Mercedes, en plus, peut améliorer. Donc juste, Mercedes va prendre le large au final.
Nico, on est d'accord que Red Bull a bien fait, entre guillemets, de demander une nouvelle analyse de ce mécanisme-là. Parce que s'ils n'ont pas le droit à une évolution, eux, pour le coup, ils seraient, au vu de ce qu'on voit depuis le début de la saison, un petit peu mis à mal.
Ben ouais, et puis ça peut changer plein de choses. Ça peut peut-être bouleverser un petit peu l'avenir de Max Verstappen, qui se dit qu'il y a peut-être des écuries qui vont lui offrir la possibilité de gagner. Alors même si je ne suis pas sûr que l'avenir de Verstappen soit forcément conditionné au fait qu'il veuille avoir la meilleure voiture, mais quand on te dit que c'est le V6 turbo de Red Bull Ford qui est le meilleur moteur, ça change plein de trucs pour eux. Donc ils ont raison, franchement, de demander une contre-expertise. Ils ont raison de demander des analyses. D'après ce qu'on sait, c'est que je ne suis pas sûr que ça fasse fondamentalement bouger les choses au niveau de la FIA, mais ça prouve que tu as une zone d'ombre, tu as une zone grise là qui est en train d'être dévoilée avec ce système à duo. Apparemment, ça va être débattu et dans 10 jours, on aura enfin le communiqué officiel que tous les concurrents, toutes les écuries attendent pour voir qui va pouvoir lancer du développement sur sa voiture, sachant que développer un moteur ou amener une évolution, ça ne se fait pas en une semaine et demie. Là, c'est pas une pièce que tu vas faire à l'écurie, une pièce du châssis que tu vas produire en 10 jours. Ça va prendre des mois de développer tout ça. Donc ça va pas avoir une incidence de dingue sur cette fin de saison. Mais malgré tout, politiquement, pour Red Bull, c'est vrai que s'ils n'ont pas d'évolution à apporter sur leur moteur alors qu'ils sont déjà derrière Mercedes, tu dis qu'ils vont avoir du mal à remonter dans la hiérarchie là, sur l'année à venir, voire sur les 2 ans.
On va suivre ça, Nico, évidemment. Les conclusions définitives de ce rapport, on en reparlera dans le paddock RMC. Revenons-en, messieurs, au Grand Prix de Barcelone. Nico, est-ce que tu peux nous faire une petite carte postale ? À quelle météo est-ce qu'on doit s'attendre à Barcelone ? Et puis, quelles sont les principales caractéristiques de ce circuit que tout le monde connaît, mais rappelle-les-nous quand même.
Ouais, tu le disais, c'est le circuit qui est pratiquement le plus connu par tous les pilotes parce qu'il y a des essais de pré-saison là-dessus.
Énormément de roulage là-bas.
De la saison, et énormément de roulage. Les écuries connaissent le tracé par cœur. C'est un tracé en plus qui est ultra complet, et c'est pour ça qu'on dit que ce Grand Prix de Barcelone, c'est souvent un peu le juge de paix. D'habitude, on est un peu à la mi-saison. Là, on est seulement qu'à la 7e manche, mais c'est là que tu vois quelle écurie est vraiment bien, parce qu'il y a 3 secteurs sur le circuit où tu as plein de caractéristiques différentes pour les voitures. Donc, le tracé peut-être le plus complet du championnat. Ça va se dérouler sous une forte chaleur. Aucune pluie n'est annoncée. On est sur des températures de plus de 30 degrés, voire même 35 degrés. Piste sèche, grand soleil. Des températures de piste qui seront particulièrement élevées, et ça va être franchement un vrai test pour les voitures, pour les pneus et pour les pilotes. Donc,
et pour les freins.
Voilà, hein. Et pour les freins, totalement. Tu as complètement raison, parce qu'on annonce des températures de piste qui pourraient grimper jusqu'à 50 degrés, hein, les copains. Wow. Donc voilà, ça va offrir aux équipes une lecture assez intéressante là, du comportement des pneus, ce Grand Prix de Barcelone.
T'étais mieux à Monaco la semaine dernière, en fait.
Il faisait plus frais. Moi, j'aime bien quand il fait frais.
Ouais, t'aurais souffert sous 50 degrés, non?
Ah ouais, 50 degrés, j'aurais transpiré comme un bœuf, mais terrible.
Tu fais bien d'en parler des freins, Elias, on en reparlera tout à l'heure avec une petite information qui nous vient de l'écurie Ferrari et de notre ami Charles Leclerc, qui avait poussé un sacré coup de gueule à la fin de ce Grand Prix de Monaco à cause de ses freins, justement. Mais d'abord, messieurs, il s'en passe des choses chez Mercedes. Toto Wolff estime, et tu l'as dit, Nico, que Barcelone sera le premier vrai juge de paix. Il l'a annoncé de cette saison. Est-ce que, venant de la part d'une écurie qui surdomine ce début de saison, on est là sur un simple coup de com' au vu de la domination, ou est-ce qu'on peut vraiment le croire, Ilyes ?
Non, c'est clairement un coup de com'. On dit que Barcelone est un juge de paix, donc quand tu as la meilleure voiture à Barcelone, c'est que généralement tu as la meilleure voiture tout court. Enfin, quand tu as eu la meilleure voiture en Chine, que tu as eu la meilleure voiture au Japon, tu as eu la meilleure voiture à Monaco, je pense que c'est peut-être que tu as la meilleure voiture tout court et que Barcelone, ce sera juste une confirmation. Donc, on connaît Toto Wolff, on connaît ses sorties médiatiques un peu, peut-être pour un peu aussi s'enlever de pression. Mais non, Mercedes, clairement, doit être favorite et le sera certainement à Barcelone.
Nico, tu parlais de ce circuit-là. Est-ce que toi, tu vois d'autres écuries peut-être se révéler sur ce circuit-là qui est le plus connu, on le répète, mais ou est-ce que vraiment on est sur enlever la pression et faire un petit coup de com'?
Non, mais je pense que Mercedes, de toute manière, a de l'avance. Et je pense qu'il ne faut pas se fier à la lecture de Monaco, qui est un peu un épiphénomène dans une saison. Je pense que McLaren sera au rendez-vous, même s'il y a eu des problèmes de fiabilité qui étaient peut-être pas uniquement dû au tracé de Monaco pour McLaren. Donc, va falloir voir comment ils bossent sur la voiture. Les séances d'essai vont être importantes, mais je pense que McLaren va retrouver de la perf. Non, mais Toto Wolff, il peut dire ce qu'il veut. Il a deux voitures qui dominent. Alors, George Russell, on va en parler. Il a une petite série de malchance et tout ça, mais mine de rien, il est quand même rapide. Il a un pilote qui surdomine la saison, qui vise une sixième victoire consécutive. En fait, il peut dire n'importe quoi, Toto Wolff. Ils n'ont pas de pression en fait. Enlever quelle pression il doit enlever? Il a plus de 60 points d'avance avec son pilote numéro 1 au championnat. Et sauf cataclysme, ils vont être champions du monde des constructeurs. Alors on va dire que je me projette très vite. J'entends déjà mon Jean-Luc Roy dire qu'en sport mécanique tout peut se passer. Bien sûr! Mais s'il y a un renversement de situation comme ça, franchement, je suis prêt à payer un resto, les copains. Parce que là, je les vois pas s'effondrer. Même si la concurrence se rattrape au niveau des évolutions et tout, on voit quand même qu'il reste devant. Donc, il peut dire ce qu'il veut, Toto. Lui, il est dans son fauteuil, tu sais, fauteuil tranquillou. Il pilote tous les écrans, il peut faire tous les déclats du monde qu'il veut. Il est en roue libre, Toto.
Non, mais je vois que vous ne vous laissez pas endormir par les déclarations du boss de chez Mercedes. Ça me fait plaisir. En tout cas, je le note à l'heure où on enregistre ce podcast. On est le jeudi 11 juin.
Non, mais tu sais, ils sont rigolos dans ce milieu-là.
Non, mais Nicolas, je note que tu nous devras un resto à la fin de la saison.
Un resto, mais bien évidemment, les mecs. Après, j'ai pas précisé le resto.
Non, mais t'es allé à Monaco la semaine dernière. J'espère que t'as pris des adresses.
Alors, j'ai pris des adresses, mais je peux vous assurer que le burger avec l'eau plate à 43 euros, on n'ira pas là, les copains. Ça, je vous le confirme.
Dans
ce milieu-là, quand t'es derrière, tu fais tout pour crucifier l'écurie qui est au-dessus. Tu te mets des tirs dans tous les sens, et quand les mecs qui sont devant, ils sont là, ils disent non, mais nous, on n'est pas les grands favoris. Hein. Franchement, attention, tranquille. On n'a pas la meilleure voiture. Derrière, ça bosse bien. Ouais, c'est des effets d'annonce en fait, mais bien sûr que Toto Wolff, quand il entame un Grand Prix là, 7e manche de la saison, il le sait qu'il a de l'avance sur ses concurrents, il n'est pas dupe, pas un mec comme lui en fait.
Et il sait aussi, Toto Wolff, il l'a dit dans la suite de l'interview, il sait qu'il doit entre guillemets faire un petit peu de calinothérapie auprès de George Russell qui s'est fait passer devant par Lewis Hamilton à la fin du Grand Prix de Monaco, qui n'est plus le dauphin de Kimi Antonelli, qui surdomine le championnat, on le rappelle, avec 156 points au classement des pilotes. Toto Wolff a d'ailleurs déclaré que l'objectif pour George Russell, c'était de réinitialiser complètement ce qu'il avait fait depuis le début de la saison. Est-ce qu'on sent George Russell, parce qu'on va se focaliser sur lui, capable de passer à autre chose, de rebondir sur ce Grand Prix de Barcelone, Ilias?
Ça va être très très dur, je pense, pour George Russell. Il faut clairement tourner la page et passer à autre chose, parce qu'on attendait un rebond au Canada. Il est arrivé, puisqu'il se battait avec Antonelli et était devant, mais bon, on a eu cette malchance. Monaco, on s'est dit peut-être qu'il va pouvoir regrappiller des points un peu, redevenir le numéro 1. Ça a été très compliqué, et pour le coup, là, c'est plus de sa faute que celle de sa voiture. Donc en fait, chaque week-end, on attend le rebond de Russell et on a l'impression qu'il ne vient pas. Antonelli, lui, ne trépasse pas, il ne trébuche pas, il domine. Donc ça va être très compliqué pour lui de revenir, ça va être très compliqué de regrappiller des points parce que même s'il finit numéro 1, au final, Antonelli finira numéro 2. Donc je ne vois pas comment il peut inverser la tendance, hormis cataclysme ou évolution qui va dans son sens et qui pénaliserait Antonelli.
Ce qui est intéressant, c'est que tu parles de malchance et entre guillemets d'impact que lui a pu avoir sur sa voiture. Nico, il y a énormément de concours de circonstances qui le sort s'acharne sur George Russell, mais quelle est sa véritable part de responsabilité là dans ce début de saison?
Autant, tu vois, après la Chine, tu peux te dire qu'il a été moins performant sur deux courses, mais là, au Canada, il a un problème de moteur. À Monaco, mauvaise gestion des pénalités de son écurie, où pour le coup, il a vraiment de la malchance. Là, il était en conférence de presse à Monaco, et il a parlé. Il a dit « J'ai déjà traversé dans ma carrière des périodes difficiles où, tu vois, après deux, trois mauvaises courses d'affilée, c'était dû à mes performances. » Mais il dit « J'ai jamais connu une telle série de malchances. » Est-ce qu'il se voile la face? Franchement, je pense pas. Je pense qu'il a encore de la vitesse. Moi, personnellement, dans mes pronos, je l'ai encore mis sur le podium à Barcelone parce que tu sens qu'il va vite. Mm-hmm. Le truc, c'est que mentalement, est-ce qu'il va réussir à inverser ça? Parce qu'il y a de la pression sur George Russell. On sait que contractuellement, c'est pas ultra verrouillé avec Mercedes, qu'il peut se passer beaucoup de choses, qu'il a un peu la guillotine au-dessus de la tête depuis plusieurs mois, que l'année dernière, sa prolongation de contrat, elle a traîné. Donc ça peut jouer, mais il a de la vitesse. Il va vite. Après, la stat qui est terrible pour George Russell, c'est que si Kimi Antonelli gagne sa sixième course consécutive, il aura gagné autant Antonelli que George Russell dans toute sa carrière. T'imagines, en enchaînant six victoires de rang. Donc,
ah, celle-là, elle fait donc, mal.
Ouais, il a cette pression-là, il a cette comparaison-là. Maintenant, je n'ai pas l'impression que tu vois, il soit ultra dominé depuis deux courses sur la piste par son coéquipier. Antonelli est énorme, il tient la pression, mais c'est vrai que Russell, il n'a pas eu de bol.
Mais pour rebondir, quand tu dis se voiler la face, je ne pense pas. Il a eu beaucoup de malchance et je pense que ça a impacté aussi son mental et son approche des courses parce que quand tu fais la course derrière et que tu as en plus de la malchance, c'est compliqué mentalement. Maintenant, à Monaco, quand son coéquipier fait P1 et que lui en qualif fait P6, il se met dans la merde tout seul. Après, il se prend le bouchon Hadjar, il se prend le bouchon Norris, mais c'est parce qu'il s'est mis dans la merde tout seul avant ça, tu vois.
Je te dis pas qu'il est pas en dessous, t'as raison. Et sur la séance de qualif, il est en dessous et il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, sur la course, il aurait pu sauver des gros points. Et t'as tout un phénomène qui va peut-être avec le fait qu'il est un peu moins performant, mais il a quand même un phénomène derrière et des éléments qui sont contre lui. Je pense que ça, au bout d'un moment, ça s'inverse en F1. Le problème, c'est que quand est-ce que ça va s'inverser? Et est-ce que c'est pas trop tard? Quand t'as 68, il a plus de 68 points de retard au championnat, George Russell, puisque c'est Hamilton qui a pris la deuxième place du championnat, tu te dis qu'il part de trop loin. Moi, de toute manière, je vois pas, malgré tout ce qu'on peut se dire, et on essaye de faire durer le suspense, nous on dit attention, sport méca, ça peut s'inverser. Regardez la saison de Verstappen, la saison dernière. Moi, j'ai l'impression quand même que là, les concurrents sont tellement loin d'Antonelli que je vois pas comment ça peut remonter.
T'es d'accord?
Ça, c'est mon avis.
Trop tard, Elias?
Trop tard, en fait c'est jamais trop tard parce que Russell a eu sa casse moteur, Antonelli peut très bien avoir sa casse moteur à Barcelone et Russell lui mettra 25-0. Antonelli a des mauvais départs où on sait que peut prendre des mauvais départs, un accrochage au T1, Antonelli qui abandonne, ça peut faire 25-0 aussi. Il y a tellement de facteurs dans le sport automobile que c'est jamais fini. Mais bien sûr, sur la dynamique, c'est compliqué.
Tu peux même te dire que tu fais 2-25-0. Il est toujours devant, Antonelli, tu vois.
Il est toujours devant, mais
je suis d'accord, ça peut arriver, bien sûr, t'as raison. Mais bon, le mec, il a une marge là qui est énorme.
Ah oui, non, mais c'est clair. Mais après, c'est sûr que tu mets 2-25-0 sur les deux prochains Grand Prix. Russell met un 50-0 à Antonelli. Mentalement, par contre, il revient.
Oui, c'est ça, parce que on le sent quand même sacrément affecté. George Russell, pour le moment, il n'hésite pas même à rabâcher que le titre de F1 est déjà dans la poche de Kimi Antonelli ou presque.
C'est du Toto Wolff, ça
c'est de la.
Oui, mais je pense que pour le. Je suis pas sûr que ce soit de la langue de bois, ça, pour le coup.
Tu penses qu'il le croit vraiment?
Mais bien sûr, mais je pense que c'est de la lucidité, mais je pense que tout le monde le croit en fait.
Ah, bah oui.
Quand t'as un gars qui a enchaîné 5 victoires consécutives, que t'as la stat du pilote qui a gagné 5 fois d'affilée, à qui le titre de champion du monde a jamais échappé, quand tu vois la domination des Mercedes, tu peux prier. Alors personnellement, faut croire en un esprit divin. Tu peux te dire qu'il peut se passer des trucs, qu'il va y avoir une casse moteur, qu'il va y avoir des incidents à chaque fois. Moi, je me dis quand même que la Mercedes, même si t'es à 75% de ton potentiel et que t'es Kimi Antonelli sur une course, tu vas chercher la quatrième place en fait. Tu vois,
mais est-ce que c'est pas un moyen aussi de mettre la pression sur un môme qui a 10 ans de moins que soi et qui, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc de vas-y, tu l'as gagné déjà, c'est bon
Si, peut-être, mais je pense que le truc c'est que ça pouvait peut-être marcher il y a 3 mois. Je pense que là, la pression Kimi Antonelli, quand tu vois encore le Grand Prix qu'il fait à Monaco dans un contexte qui est particulier, quand tu vois qu'à Monaco il y a tous les Italiens, nous dans le paddock il y avait un nombre de journalistes italiens. Les Italiens, ils sont pas la Coupe du Monde de foot là. Là, leur Yannick Sinner, il s'est fait taper à Roland Garros. Là, leur soleil, c'est Kimi Antonelli. Hein. Mais tu vois, donc ils n'ont Dieu que pour Antonelli. Hein. Et malgré tout ça, il arrive à faire un week-end comme ça. Oui, tu peux essayer de lui mettre la pression. Je suis pas sûr qu'Antonelli, la pression, ça le fasse dégoupiller là, hein, pour l'instant en tout cas.
En tout cas, s'il met pas la pression sur Antonelli, est-ce qu'il a lui intérieurement cette petite voix sur son épaule qui lui répète peut-être que s'il continue comme ça, et au vu du comparatif qu'on fait au fil de la saison avec un Kimi Antonelli qui n'a que 19 ans et qui est destiné à remporter ce titre de champion du monde, est-ce qu'il entend cette petite voix qui lui répète qu'il va potentiellement perdre ce baquet à la fin de la saison, Ilyes?
Perdre son baquet, ça j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue interne actuellement, t'as Antonelli qui a quasi 70 points d'avance sur Russell. Si à la mi-saison, Ferrari avec les évolutions ou Red Bull ou je ne sais quelle équipe revient à la hauteur de Mercedes, qui Toto Wolff va privilégier? C'est Antonelli. Et là, pour le coup, le numéro 1, ça sera qui? Ça sera Antonelli. Donc, ce sera très compliqué pour Russell. On sait que Verstappen a parlé un peu avec Mercedes, il y a eu des échos. Pareil, si Red Bull est le meilleur moteur et ne peut pas évoluer, Verstappen sera peut-être tenté. Donc forcément, on parle beaucoup avec Desi parce qu'on se projette. Mais dans la dynamique actuelle, ça peut être très compliqué pour Russell et pour son baquet aussi.
Nico, il y a pas mal de rumeurs qui circulent dans le paddock, comme quoi Mercedes pourrait en effet appuyer sur le bouton rouge si jamais cette dynamique se poursuit sur la suite et fin de la saison. Est-ce que tu crois à une séparation ? Est-ce que Russell est potentiellement le meilleur lieutenant d'Antonelli ? Est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un d'autre à la fin de la saison ? Toi, à l'instant T, qu'est-ce que tu penses ?
Écoute, c'est compliqué. Je sais pas. Il faut savoir qu'il a un contrat jusqu'en 2027, George Russell, qu'il a dit, et c'est lui qui l'a annoncé, que s'il atteignait certains objectifs en 2025, eh ben son contrat se prolongera automatiquement. Je suis pas sûr qu'il rentre dans ces objectifs-là pour le moment. Donc, oui, peut-être qu'à la fin de l'année 2000... En fait, je pense que ça dépendra surtout de quel pilote Mercedes peut attirer. Et si tu sens que sur le marché, tu as la possibilité de faire Verstappen, je pense que... Après, la question c'est de te dire, même si George Russell a fait une saison moyennasse, est-ce que tu peux faire venir meilleur dans le baquet Mercedes à sa place? Charles Leclerc a prolongé, Verstappen, on sait pas trop ce qu'il fait. Verstappen, je vois pas qui pourrait y aller.
Elias, Verstappen chez Mercedes, on signe? Toi, t'aimerais le voir à la place de
Ouais, de je pense Russell. Que mais Verstappen dans n'importe quelle écurie, je signe parce que bah, Verstappen, on l'a vu à Red Bull, il a dominé. On a envie de le voir dans un autre contexte. Donc forcément, Verstappen, je signe totalement chez Mercedes. Et en plus, un petit duel Verstappen-Antonelli pour le titre, si possible, moi, je signe totalement.
C'est... Là, on est sur la légende et l'héritier, l'élève qui dépasse le maître potentiellement.
Potentiellement, oui.
Un mot qui met Antonelli jusque justement, on sait que la saison européenne n'a pas été vraiment idéale pour lui la saison dernière. Est-ce qu'aborder cette partie du calendrier, selon toi, avec 5 victoires de suite, c'est plutôt une pression ou un avantage ?
Non, je pense que c'est un avantage dans le sens où, en fait, il avait besoin de faire ses preuves. Il avait besoin de montrer que c'était lui le patron. Il l'a montré. Maintenant, en fait, il n'est pas en détente non plus parce qu'il a un championnat à aller chercher. Mais il est peut-être un peu plus léger. Il sent que le vent tourne pour lui, l'équipe tourne pour lui, il se sent bien dans la voiture. Donc forcément, il aborde cette tournée européenne avec un peu de tranquillité, un peu de calme, et ça pourra lui faire du bien.
Petite stat d'ailleurs, aucun pilote qui a gagné minimum 5 Grands Prix de suite en une seule saison a fini par perdre le titre sur cette même saison. C'était le cas de Verstappen en 2003, Lewis en 2014 et 2020, Vettel en 2013, Schumi en 2004. Et puis si on remonte, il y a des Mansell, Jim Clark, Jack Brabham, Alberto Ascari en 52 pour le plus ancien. C'est fait pour Antonelli, Nico ? On est d'accord ? Cette stat, elle est parlante quand même.
Franchement, je sais. Enfin, c'est fait. On va me dire. J'entends déjà les gens dire, il est complètement zinzin, lui. Il y a que 6 courses qui se sont passées. Et c'est déjà fait. Mais il peut tout se passer. Donc, je vais pas mouiller à 100%. Mais quand tu vois encore une fois la domination de Mercedes, et que tu vois qu'il en gagne 5 d'affilée, et que j'ai l'impression que même si on lui coupe un bras, il pourra emmener sa voiture dans les points avec la main gauche, tu vois, si on lui coupe le bras droit.
On lui souhaite pas.
Je me dis que, ouais, c'est. Non, on lui souhaite pas.
Ça peut faire mal. Compliqué de passer les vitesses en bras.
Ouais, il va galérer un petit peu, mais bon. Non, mais tu vois, moi, personnellement, là, à l'instant T, de ce qu'on voit sportivement, du comportement de Kimi Antonelli sur différents tracés, qui a su gagner à Monaco, qui a su gagner au Canada, qui a su gagner à Miami, même si ça a été très compliqué. En plus, tu sens qu'il a les petits coups de pouce du destin avec lui, les petits millièmes. Voilà, il passe entre les gouttes. À chaque fois, il y a des incidents de course. Ça a probablement tourné à un moment. Mais moi, je te dis, il va aller sécuriser sa 3e, 4e place quand il sera dans un temps un peu plus faible. Sauf problème de fiabilité, je ne vois pas comment Kimi Antonelli peut perdre ce titre-là. Je peux me planter, hein. Il y a énormément de courses encore. Il y a deux Grands Prix à reprogrammer. On se doute bien que la FIA va
tout
reprogrammer
faire pour,
les Grands Prix. Ben voilà, va tout faire pour reprogrammer ces courses-là. Maintenant, moi, les gars, si j'ai de l'argent à mettre, je mets beaucoup d'osé sur Antonelli. Hein. Je ne sais pas vous, mais...
T'as mis des restos déjà.
Je ne suis pas sûr que la cote soit très haute, ouais. Mais en effet, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités.
En tout cas, je ne mets pas d'argent sur d'autres pilotes. Tu vois. Je ne me dis pas, vas-y, je tente un coup, ça va le faire. Russell va inverser la situation, ou Leclerc va revenir, ou même Hamilton. J'ai l'impression qu'ils sont tellement loin, tu vois. Et en plus, McLaren, quand on se dit à chaque fois que McLaren est mieux et qu'ils peuvent prendre des points, tu as toujours une course où derrière, il y a des problèmes de fiabilité chez McLaren. Donc là, je vois pas qui peut le concurrencer en fait.
Et tu vas pas sur Fernando Alonso qui a marqué son premier point à Monaco?
Ah, Fernando, j'y vais pas.
Je comprends pas pourquoi, tiens, c'est bizarre. Allez, refermons, messieurs, cette page Mercedes et ce duel à l'intérieur entre Antonelli et George Russell. J'avais envie de vous entendre aussi sur Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a poussé un immense coup de gueule contre son équipe et contre son fournisseur de freins à la fin du Grand Prix de Monaco. On vient d'apprendre juste avant d'enregistrer ce podcast que Charles Leclerc sera équipé des nouveaux disques Carbon Industries comme l'était déjà Lewis Hamilton à Monaco et sur les précédents week-ends. Est-ce que ce coup de gueule est un mal pour un bien? Est-ce que lui, mentalement, est au bout du rouleau? Voilà, j'ai envie de savoir ce que vous ressentez pour ce Grand Prix de Barcelone, pour Charles Leclerc, Ilias.
Bah, je pense qu'il y avait besoin de ce changement. Il avait perdu du feeling avec la voiture, perdu le feeling surtout avec les freins. Et on le sait, les pilotes, souvent, quand ils perdent le feeling, faut un peu réinitialiser ou changer des choses pour un peu se vider la tête et se dire « bon, je repars d'une nouvelle page, je vais peut-être essayer de retrouver un peu de feeling ». Je pense que c'est bénéfique pour lui, surtout que c'est un pilote qui pilote vraiment avec le feeling de la voiture. Pour le coup, lui, il a besoin de confiance dans ses freins. Donc je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Maintenant, on va voir si c'est vraiment un problème de frein ce week-end.
Mais c'est ça, Nico. Est-ce que ça suffit ou est-ce que c'est vraiment Charles qui est potentiellement au bout du rouleau?
Non, mais je pense pas. Mais je pense qu'Ilias a dit quelque chose de très juste. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu n'as plus confiance en ta machine, que tu émets des doutes sur ton écurie, on sait qu'un pilote de Formule 1, s'il veut aller vite, il faut que tout soit un peu aligné. Charles Leclerc, il est très fort mentalement. On l'a déjà dit, il a toujours réussi à tirer plus que le meilleur de sa voiture, à rouler parfois à 122% des possibilités de ce que Ferrari lui apportait. Mais là, tu sens qu'en fait, c'est peut-être la première fois, moi, où j'ai senti une telle manque de maîtrise dans ses mots, une perte de contrôle à la fin de la course. Il y avait de l'énervement, de l'agacement, il n'en peut plus. Ça tombe sur le moment en plus où il prolonge, tu vois, à longue durée, où il y a peut-être aussi ce côté où tu te dis, mais merde, on va jamais y arriver en fait. On va jamais y arriver, on s'engage sur le long terme, on sent que des fois ça va mieux et au final, il y a toujours une cagade qui tombe. Donc oui, je pense que déjà, on rappelle quand même que Carbon Industries, c'est une boîte française quand même. Donc ça veut dire qu'il est équipé de freins français. Je pense qu'au niveau mental, ça peut switcher. Et voilà. Mais en plus, ce qui est dur cette saison pour Charles Leclerc, c'est que son coéquipier, il prend des points. Et que son coéquipier, il est deuxième du championnat. Donc c'est la première fois que Leclerc est à ce point dominé par un coéquipier, peut-être depuis qu'il est arrivé chez Ferrari, que en plus c'est Lewis Hamilton.
C'est ça, c'est pas n'importe qui.
Ce qui peut se passer autour de Lewis. Bah voilà, avec tout ce qui peut se passer autour de Lewis Hamilton. Donc écoute, je sais pas. Je pense que ce coup de gueule peut lui faire du bien. J'ai hâte de voir comment Ferrari va se comporter ce week-end à Barcelone. Franchement, ça c'est un des gros points d'interrogation du week-end et une des attractions du week-end.
Oui, savoir s'ils vont être capables de potentiellement rivaliser avec Mercedes. Justement, qui vous voyez aller chercher les Mercedes sur ce Grand Prix de Barcelone? Est-ce qu'ils sont vraiment trop au-dessus ou est-ce qu'on a quand même une ou deux écuries, un ou deux pilotes capables d'aller titiller les Mercedes, Ilias?
C'est si dur à dire parce que Verstappen, en fait, c'est Verstappen, donc il est toujours plus ou moins dans les parages. Mais je pense que personne n'ira chercher Mercedes.
Est-ce qu'il n'est pas un peu revanchard, Verstappen, de ce Grand Prix de Monaco?
Ouais, mais je pense que sur la grille, en fait, il y a beaucoup de revanchards. Norris, très revanchard de la semaine dernière. Leclerc est revanchard. Hamilton veut conserver sa place.
Gasly,
ouais.
Gasly, oui, mais dans le peloton d'après.
Ouais,
mais...
Plus revanchard sur la FIA, lui, je pense que... Non, il y a beaucoup de revanchards, mais en fait, Mercedes sera largement devant, je pense, il n'y a pas de souci. Mais en fait, qui sera deuxième force? Je pense, je vois plus McLaren et deuxième force, mais est-ce que la fiabilité sera là? Bah, c'est un souci. Ferrari peut être deuxième force. Je pense que, en fait, ça se jouera entre Hamilton et Verstappen pour moi.
Nico, après l'attraction Mercedes, est-ce que la vraie attraction de cette saison de Formule 1, c'est justement, comme le dit Ilias, cette bataille pour la seconde place entre guillemets constructeur derrière Mercedes?
Oui. Ouais. Bon, après. Ouais, franchement, oui, on en est là. Hein. Non, mais après, l'attraction, c'est un peu de te dire est-ce que Mercedes peut pas être un peu challengé ce week-end? Est-ce que. J'en sais rien. Moi, franchement, je crois que j'ai mis les deux Mercedes sur le podium dans mes pronos. Et j'ai mis une McLaren aussi parce que je pense qu'ils vont retrouver de la perf sur un circuit comme ça. Je vois Ferrari en retrait. Je vois Red Bull un peu en retrait, même si on sait que Verstappen est capable de prodiges. Et même Isaac Hadjar, hein, franchement, ce qu'il montre là maintenant, c'est super intéressant. Red Bull va compter, mais je les vois quand même un petit peu derrière Mercedes et McLaren. Après, en Formule 1, il y a des bagarres un petit peu partout, hein, tu vois. Donc, dans le midfield, dans le milieu de tableau, il y a des bagarres pour entrer dans les points, il y a des trucs assez intéressants. Mais, Mais c'est clair que... Est-ce qu'on a fait un warm-up cette saison où on n'a pas mis Mercedes? Bah, avant Monaco, on disait qu'il allait faire un... Sinon, on a mis Mercedes. On a mis Mercedes qui dominait chaque course et ils ont dominé chaque course. Donc, bon, tu vois, s'il n'y a pas de souci, encore une fois, fiabilité, mécanique, stratégie, fève de l'écurie pendant la course, je ne vois pas ce qui peut empêcher une Mercedes de gagner.
Un petit mot quand même, j'ai parlé rapidement de Charles Gasly, juste vous donner l'information. Alpine qui avait fait une demande auprès de la FIA pour réexaminer les pénalités qui lui avaient été accordées sur le Grand Prix de Monaco pour des excès de vitesse. Le droit de regard va être en effet exécuté par la FIA qui va re-regarder ces pénalités et potentiellement réexaminer le sujet et apporter un jugement différent. On ne voit pas comment ça pourrait arriver parce que ça bouleverserait totalement le classement et il n'y a pas que lui qui a eu des pénalités sur ce Grand Prix, mais au moins apporter peut-être des clarifications et un éclaircissement sur ce qui s'est passé sur ce Grand Prix de Monaco. Ilyes, un mot?
Non, c'est clair. Après, je pense que si tu réexamines Gasly et que tu vois, tu t'es trompé, tu vas devoir examiner toute la grille, donc c'est compliqué. Mais même le fait de réhabiliter le podium de Gasly, au final, je sais pas si c'est bénéfique pour lui. Il gagne les points, mais en fait, un podium à Monaco, c'est vivre le podium à Monaco, être sur le podium. Après que tu aies eu le podium à Monaco 3 semaines après et que tu aies eu 10 points en plus, c'est bien pour le classement, mais en termes d'émotion, c'est pas aussi bien que sur le moment, quoi.
Messieurs, on va passer avant de conclure à vos pronos. Nico, tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous dire qui tu vois sur ce podium du Grand Prix de Barcelone-Catalogne?
Écoute, ça fait 5 courses que je mets George Russell vainqueur et on prend pas.
Il y a bien un moment où il va finir par y arriver.
Non, parce que justement, au bout d'un moment, je me suis dit, Nicolas, change. Donc j'ai mis Antonelli vainqueur. Et tu vas voir que c'est le Grand Prix où ça va pas le faire. Non, j'ai mis Antonelli, je crois. J'ai mis une McLaren en 2. Il me semble que j'ai mis Lando Norris et j'ai mis George Russell en 3. Sachant que je pense que j'étais pas loin des prodos de Seberson à mettre les deux Mercedes en tête avec un Russell, Antonelli, Norris. Voilà, peu importe un peu l'ordre, mais je vois ces trois pilotes, dominer. Juste pour revenir sur Gasly, 30 secondes. Ouais. T'as raison, Elias. La joie du podium, on lui enlèvera pas. Par contre, pour Alpine, pour l'écurie, prendre les points, c'est monstrueux pour potentiellement terminer cinquième. Et c'est pour ça qu'ils le font. Hein. Là, la joie de Pierre Gasly et le fait qu'on lui a enlevé son émotion, là, l'écurie, elle s'en fiche. L'audience a été prévue à 13h aujourd'hui, donc ça va tomber dans l'après-midi. Au moment où vous écoutez ce podcast, peut-être que l'info sera tombée. Mais pour Alpine, c'est capital de récupérer ses points pour.
Et puis on vous mettra évidemment l'information sur le compte Instagram du paddock RMC. Ilyes, ton prono, je veux ton podium pour ce Grand Prix de Barcelone.
Je vais vous surprendre. Numéro 1, j'ai mis Antonelli. Deuxième, j'ai mis Russell.
Ah, tu ne surprends pas là.
Ouais, c'est bien. Ouais,
et troisième, tu ne surprends pas du tout.
Troisième, j'ai mis Norris. Très surprenant.
Oh, t'as mis comme moi alors.
Exactement.
Si c'est bon signe.
Je vois Norris revanchard par rapport à Piastri la semaine dernière, donc je le vois devant Piastri. Mais après, c'est totalement logique de mettre ce podium, je pense.
Sachez que Daniel Torres, notre réalisateur, met Fernando Alonso en 1, Lewis Hamilton en 2 et sans doute, je sais pas.
Je crois qu'il a mis Hakkinen en 3.
Ouais, c'est-à-dire que Daniel Torres, c'est en effet, c'est ça, il n'a pas regardé un Grand Prix depuis 17 ans, Daniel Torres, à l'époque où Alonso débarquait en Formule 1, avec une voiture bleue et tout, l'écurie française.
Oui, mais il est toujours fan, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est fort.
Même ça, c'est beau. Non, mais ça, je respecte.
Eh oui.
Non, mais Daniel Torres qui, avant le podcast, nous dit, les gars, vous allez parler d'Alonso. Non, Daniel, on ne va pas parler de Fernando Alonso.
Je l'ai fait quand même pour lui faire plaisir. Voilà,
c'est beau.
C'est beau. On est bien. Merci Nico, merci Ilyes d'avoir participé.
Ciao, les amis.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous lundi, en effet, Nico, pour débriefer ce Grand Prix de Barcelone. Salut à tous.
Le paddock RMC.